Bon réveil à tous, voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La vente des produits déjà interdits dans les commerces de proximité sera également interdite dans les grandes surfaces. Jean Castex l'a annoncé hier soir. Nous reviendrons sur les déclarations du Premier ministre après 3 jours de confinement.
Et le chef du gouvernement ira ce matin à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines pour assister à l'hommage rendu à Samuel Paty. Une minute de silence aura lieu dans tous les établissements scolaires.
Les élèves qui font ce matin leur rentrée en plein confinement, protocole renforcé dans les collèges et lycée, le port du masque est obligatoire pour les élèves dès 6 ans.
Nous irons dans le New Jersey avec notre envoyé spécial. L'État devrait largement voter pour Joe Biden, J-1 avant l'élection présidentielle aux États-Unis.
Avec un taux de participation de seulement 23,7% au référendum, selon les autorités, les Algériens ont boycotté le scrutin. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et après l'actualité, la question du jour, Guillaume Erner.
Eh bien, je vous vois couverte de bijoux, Margot. Justement, la question du jour. Le luxe est-il épargné par la crise? Nous poserons la question dans quelques instants à Isabelle Chabou. Elle est directrice du MSC Fashion Design et Luxury Management à Grenoble École de Management.
Il est beaucoup trop tôt pour revenir sur les mesures annoncées, a expliqué hier Jean Castex. Le chef du gouvernement était l'invité du 20h de TF1 et il s'est expliqué sur les spécificités du nouveau confinement en vigueur depuis vendredi. Face aux indépendants en colère, aux petits commerces jugés non essentiels et qui ont dû fermer leurs portes, il a exclu toute nouvelle dérogation. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Sur ce point, le Premier ministre s'est montré inflexible.
Et oui, Jean Castex a douché les espoirs des petits commerçants. Il s'agit selon lui de la logique du confinement qui implique de limiter le nombre d'occasions de sortir. Le Premier ministre s'est entretenu hier avec les représentants du secteur et des élus locaux. Une seule mesure pour leur répondre, la fermeture dans les grandes surfaces des rayons non essentiels au plus tard mardi au nom de l'équité selon Jean Castex qui a également rappelé les 20 milliards supplémentaires débloqués pour le secteur. Pas sûr que ça apaise la colère des petits commerces qui regrette que les propositions comme recevoir les clients sur rendez-vous n'aient pas été retenues. En revanche, cela aura déclenché la colère de la grande distribution qui ne comprend pas une telle décision. Selon les représentants du secteur, c'est bien les grandes plateformes de commerce en ligne, Amazon en tête, qui sortent gagnantes. D'autant plus dans cette période avant Noël où les jouets, par exemple, ne sont pas considérés comme des denrées essentielles. Et puis reste encore à définir justement précisément ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Dans les grandes surfaces, les produits essentiels et non essentiels sont bien souvent mélangés jusque dans les mêmes rayons, sans oublier les conséquences pour les salariés du secteur. Selon la Fédération de la Grande Distribution, 20 à 25% d'entre eux pourraient être touchés.
Jean Castex a aussi réagi aux récentes attaques. L'assassinat la veille des vacances de la Toussaint de l'enseignant Samuel Paty, qui avait montré des caricatures à ses élèves, nous y reviendrons. Et l'attentat contre l'église de Nice jeudi dernier, au cours duquel 3 personnes ont été tuées. Jean Castex a souhaité, je cite, « dénoncer toutes les compromissions qu'il y a eu pendant trop d'années, les justifications à cet islamisme radical. Nous devrions, a-t-il dit, nous autoflageller, regretter la colonisation, je ne sais quoi encore », a ajouté le Premier ministre. La première façon de gagner une guerre, c'est que la communauté nationale soit soudée, a rappelé le chef du gouvernement. Voilà donc dans quel contexte les 12 millions d'élèves et leurs 800 000 enseignants feront leur rentrée en France ce matin. Même si nous sommes à nouveau confinés depuis vendredi, les écoles, collèges et lycées restent ouverts. La matinée sera en partie consacrée à Samuel Paty pour lui rendre hommage avec la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, puis une minute de silence observée à 11h. Courant novembre, les enseignants pourront aussi organiser un temps pédagogique en classe autour des valeurs de la République et de son école. Comment les élèves vont-ils réagir? Il faut s'attendre chez les adolescents à quelques perturbations selon Marcel Ruffo, pédopsychiatre.
Certains adolescents vont avoir des attitudes de défi, de contestation. Ça fait partie des fragilités adolescentes. Le doute qui est normal à l'adolescence va être renforcé par les plus fragiles et qui vont peut-être s'opposer à tout ça. Pour être corporatiste ou prendre des positions stupéfiantes pour les adultes, mais qui sont fonction de leur propre fragilité. Donc tout ça mérite vraiment d'être bien travaillé. Et je crois qu'une préparation en amont avec les enseignants est quasi indispensable. Comment associer les familles aussi? Parce qu'on a aussi des familles qui ne veulent pas en parler. Je veux dire, par exemple, selon des faits religieux ou des positions religieuses qui vont poser problème. Il ne faut pas qu'on transforme la notion de guerre en guerre civile aussi. Il faut faire attention à ça.
Marcel Ruffaut, la minute de silence doit être respectée, prévient le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Nous reparlerons de l'école tout au long de la journée, journée spéciale sur France Culture, à l'occasion de cet hommage rendu à Samuel Paty. Et le reportage de la rédaction à 7h24 sera consacré au témoignage d'une enseignante. À cela, ajoutons la crise sanitaire. Plus de 3500 malades étaient hier en réanimation ou en soins intensifs, avec près de 300 nouvelles admissions depuis samedi. Ces dernières 24 heures, 231 patients sont morts de ce coronavirus dans les hôpitaux. Pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le protocole sanitaire doit être renforcé dans les collèges et lycées. Le port du masque est désormais obligatoire dès 6 ans à Kim Kasmi.
Principale nouveauté de la rentrée, le masque qui sera désormais obligatoire dès 6 ans. Un protocole sanitaire qui sera également renforcé, puisque Jean-Michel Blanquer, dans la mesure du possible, a demandé le non-brassage des élèves et à ce que les heures de cantine et de récréation soient décalées. Les élèves devront également toujours rester dans la même classe, des mesures qui seront difficiles à mettre en place, en particulier au lycée, à cause de la réforme du bac, selon Florence Delannoy, secrétaire adjointe du SNP2N et également proviseur dans un lycée de Lille, qui n'exclut pas le retour des cours en distanciel.
C'est déjà pas facile du tout en collège, mais c'est quasiment mission impossible en lycée. Donc le distanciel, pourquoi pas, sachant que quand même, on a bien vu les inconvénients du distanciel l'année dernière. Même si on est un petit peu mieux préparé là maintenant à accompagner les élèves qui ne sont pas bien équipés en PC, qui sont pas bien équipés en connexion Internet, ça reste quand même un vrai problème.
Du côté du primaire, même si le conseil scientifique estime que les petits-enfants sont moins contagieux, pour éviter des clusters dans les prochaines semaines, il serait nécessaire de mettre en place des demi-groupes, selon Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP.
Demandons au ministre d'appliquer son plan de continuité pédagogique pour pouvoir alléger les groupes d'élèves dans les classes et pouvoir ainsi assurer la distanciation physique entre les élèves. Parce que c'est vraiment ça qui peut réduire le nombre d'élèves par classe et qui peut aussi éviter les brassages d'élèves, notamment lors des récréations, mais également sur les temps de cantine, par exemple.
Afin de laisser le temps aux chefs d'établissement de s'organiser, Jean-Michel Blanquer leur laisse un délai jusqu'au 9 novembre pour mettre en place ces mesures.
Dans l'enquête sur l'attentat de Nice, 3 gardes à vue ont été levés. Samedi, les autres se poursuivent. Quant à l'assaillant, il sera entendu dans les prochains jours. Il n'est pas encore en état de répondre à un interrogatoire, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Les policiers lui avaient tiré dessus pour le neutraliser peu de temps après l'attaque contre la basilique Notre-Dame. Le procès des attentats de janvier 2015 est suspendu cette semaine. 3 accusés sont positifs au coronavirus, dont l'accusé principal. Tous ont été testés ce week-end.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Les Américains retiennent leur souffle à la veille de l'élection présidentielle.
L'ex-vice-président et démocrate Joe Biden est favori selon les sondages, mais le président sortant et républicain Donald Trump ne s'avoue pas vaincu et fait campagne lui aussi jusqu'à la dernière minute. Un scrutin en pleine pandémie dans une Amérique à fleur de peau, marquée ces derniers mois par des manifestations contre le racisme. Si les candidats concentrent leurs efforts dans les swing states, des États pivots qui peuvent tout faire basculer, le choix semble déjà très clair dans la plupart des autres États. Exemple dans le New Jersey qui devrait choisir Joe Biden. Sur place, Maxime Tellier.
Sur le bord des routes, on trouve quand même quelques républicains. Ici, le groupe des femmes du New Jersey pour Trump. Elles sont une centaine, dont Betsy.
C'est très difficile d'être républicaine dans un État bleu comme ici. On bosse très dur pour faire basculer l'État, mais il y a tellement de démocrates. C'est environ 70% contre 30.
Et c'est un peu comme si leur voix ne comptait pas, car lorsqu'un candidat gagne un État, il rafle tous ses grands électeurs. Mais ça ne choque pas Christine.
Mais je pense que nos voix comptent vraiment. Nous votons aussi pour les législatives, pour les scrutins locaux. Oui, je vois très bien où vous voulez en venir. Mais nous continuons de nous mobiliser.
Et pas question de remettre en cause le principe des grands électeurs qui avaient favorisé Trump il y a 4 ans, élu malgré un retard de 3 millions de voix sur Clinton.
Si nous n'avions pas le collège électoral, alors la Californie et New York décideraient pour tout le reste du pays. Ce sont les règles, il faut suivre les règles.
Et côté démocrate, les militants s'adaptent aussi au mode de scrutin. Rick vit dans le New Jersey et pour peser sur l'élection, il va en Pennsylvanie, un swing state juste à côté.
Je passe beaucoup de temps en Pennsylvanie, je distribue des tracts. Beaucoup de démocrates le font dans les états clés. On passe des coups de fil aussi. Il y a 4 ans, je ne l'avais pas fait et Hillary Clinton avait perdu de très peu la Pennsylvanie. Je ne veux pas que ça arrive cette année.
Et en général, la participation est bien plus élevée dans les états pivots. 66% dans le Wisconsin en 2016 par exemple, contre seulement 38% à Hawaï.
Maxime Tellier, envoyé spécial de France Culture aux États-Unis. Les Algériens, eux, étaient appelés à voter hier par référendum sur une révision de leur constitution. Mais les électeurs ont boudé les urnes. Le taux de participation est de 23% seulement selon les chiffres officiels, Valérie Crova.
C'est un revers cuisant pour le président Tebboune et une victoire pour tous ceux qui avaient appelé au boycott, au premier rang desquels les partisans du mouvement de protestation du Irak, ceux-là même qui réclament le remplacement d'une caste politique au pouvoir depuis l'indépendance. Ils dénonçaient un changement de façade dans le texte soumis au vote, mais sans pouvoir le dire haut et fort, durant toute la campagne, les partisans du non n'ont pas pu tenir de meeting et n'étaient pas invités à débattre dans les médias. Pour les observateurs algériens, Abdelmadjid Tebboune, âgé de 74 ans, cherchait à gagner une légitimité après son élection l'an dernier, où le taux de participation a été le plus faible de toutes les élections présidentielles de l'histoire de l'Algérie. Cette fois encore, avec une abstention massive, il n'a pas réussi à convaincre ses concitoyens, un président qui plus est absent, puisqu'il a été hospitalisé en Allemagne après la découverte de cas de coronavirus dans son entourage.
Les premiers résultats donnent Alassane Ouattara grand vainqueur de l'élection en Côte d'Ivoire, c'est le président sortant, avec des scores écrasants par endroits, des résultats que l'opposition ne reconnaît pas. Camille Magnard y reviendra dans sa revue de presse internationale à 7h35. Météo France prévoit de la pluie dans le nord-ouest de la France. Le temps sera gris de Lille à La Rochelle et plutôt ensoleillé ailleurs. Il devrait faire cet après-midi 14 degrés à Cherbourg, 17 à Paris, 18 à Nice, 20 à Bordeaux et 21 degrés à Strasbourg. Guillaume.
Merci beaucoup Margot Delpierre. Dans quelques instants, la question du jour, le luxe est-il épargné par la crise ?